Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur parcours et de ce qui a fait leur réussite. L'idée, c'est de décrypter avec eux les clés de leur succès et de vous apporter un maximum d'éléments concrets, de conseils, enseignements, livres à lire, disciplines à créer ou philosophies même, pour que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres vies. J'essaie de publier Le Gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Enfin, je passe à mon invité du jour, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, qu'il vous a appris quelque chose, permis de réfléchir à vos projets d'une manière différente, n'hésitez pas à mettre une petite note sympathique ou un mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous. Cela fait une vraie grande différence et ça pourra peut-être même rendre service à l'un de vos proches. Et aujourd'hui, mon invité est Charles Perron. Vous pourrez le retrouver sur LinkedIn notamment, au nom de Charles Perron, 2-0-N donc, ou via son mail charles@martyagency.com. Et Charles est un vrai et pur autodidacte. Après un début de carrière dans le monde de la danse, dans la danse pro, il quitte l'école sans même avoir son bac et pour réussir à vivre, se lance dans l'entrepreneuriat. Issu d'une famille de producteurs dans le monde artistique, à 18 ans, il a la lucidité de miser sur ce qu'il estime être sa plus grande différenciation, le fait de savoir identifier des talents. Il crée donc Start TV, une web TV de diffusion de contenu artistique et culturel indépendante avec plus de 500 millions de vues à son actif depuis son lancement. En parallèle, il crée plusieurs structures de production ou de management de talents afin d'aider des artistes, comédiens ou influenceurs dans leur démarche entrepreneuriale. Enfin, il crée Marty Agency, il y a assez peu de temps finalement, je crois 5-6 ans. D'abord une agence de publicité spécialisée dans le e-sport et depuis peu une agence de publicité créative basée à Berlin. Et Charles est une personnalité que j'ai trouvée vraiment intéressante, très originale, un vrai créatif. Et j'ai voulu l'inviter sur le podcast parce que finalement, je trouvais que c'était assez rare de donner la parole à une personne qui, comme lui, n'avait pas fait d'études et qui, au fond, peut prouver que même sans avoir fait de grandes études, justement, on peut réussir à accomplir les objectifs, même ambitieux, qu'on s'est fixés. Avec Charles, on est parti dans tous les sens. On a parlé de l'importance de se créer un réseau, de savoir identifier ses forces et faiblesses, savoir quand il faut s'accrocher aussi, quand il faut être discipliné, et quand au contraire, il faut savoir passer à autre chose, des grandes tendances actuelles du monde de la publicité, de notre addiction maladive, et j'ai fait un petit mea culpa à ce sujet à nos téléphones, de pourquoi il pense qu'il y a un vrai retour au réel dans le milieu de la pub, de mentoring aussi, mais enfin de choses un petit peu plus légères, comme par exemple de jeux vidéo ou de podcast. J'espère que nos échanges vous plairont et je laisse place à ma conversation avec Charles Perron. Hello Charles et bienvenue.
Salut Pauline.
Sur le podcast.
Ouais.
Je suis ravie de t'accueillir chez moi cette fois. Donc messieurs, dames, pour être tout à fait honnête avec vous, nous avions enregistré une première version de cet épisode et j'ai fait une erreur monumentale, c'est que j'ai invité Charles à la Palette dans le quartier latin à Paris, qui est un restaurant que j'aime bien, mais où malheureusement du coup on a eu beaucoup de bruit, donc c'est une deuxième version du podcast, mais du coup ça sera encore mieux je pense, donc merci d'avoir accepté de revenir, c'est chez moi cette fois.
De rien Pauline, c'est la première fois que tu le fais ici ?
Non, c'est pas la première fois que je le fais chez moi.
Oui, donc du coup, là, t'es rassurée.
Je sais que ça va être très calme, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, Charles, je voulais commencer la discussion par parler de ton enfance quand même. On en avait parlé un petit peu la dernière fois, mais là, plus précisément, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que je sais que tu es complètement autodidacte, que tu as arrêté tes études très tôt, avant le bac, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et pourtant, maintenant, tu es à la tête de non pas une, mais plusieurs boîtes. Ouais. Donc, tu es entrepreneur, notamment une agence de pub, donc Marty Agency, qui collabore en plus avec de très belles marques. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as voulu arrêter tes études aussi jeune? Et ensuite, on parlera de justement qu'est-ce que ça peut t'apporter et les différences, en fait. Parce que beaucoup de personnes, pour tout dire sur le podcast, me disent c'est super d'avoir plein d'entrepreneurs successful, mais finalement, il y en a plein qui ont fait tous HEC, le SCP, des écoles. Bah, on peut réussir, et t'en es la preuve, sans avoir le bac, et je trouve ça assez formidable.
T'en as autant? C'est bizarre, parce que dans l'impression que j'ai, ou alors c'est peut-être parce que du coup, on se souvient plus des gens qui n'ont pas passé le bac que des gens qui ont fait HEC.
J'essaye d'être équilibré, hein. J'ai pas que ça, mais il y en a quand même pas mal.
J'avais l'impression que justement, t'en avais quand même interviewé pas mal qui étaient autodidactes.
Ouais, bah j'essaye parce que je trouve que c'est important de montrer justement qu'on n'est pas obligé d'être passé par des grandes écoles, et moi je suis convaincue que c'est pas le cas.
C'est quand même difficile, hein. Ouais. Je veux pas le faut pas, c'est vraiment pas un message, ne faites pas d'études, hein. Vraiment, il y a un avantage à faire des études, rien que le fait du réseau. Mm. Tu vois, moi, je bénéficie pas du réseau de l'école.
C'est sûr.
Alors, en vrai, je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais j'ai l'impression qu'à ce que vous me dites tous, c'est qu'il y a une base. Tu vois.
Je pense que c'est plus que ça rassure pour un premier job, pour des investisseurs. Enfin, à pas mal d'égards, en fait, ça rassure d'avoir un espèce de label sur toi. Mais d'un autre côté, c'est aussi assez enfermant. Moi, je dirais plus ça, tu vois, que le réseau. Moi, j'ai fait, par exemple, HEC. Très honnêtement, je pense pas. J'ai jamais envoyé un message à quelqu'un lui disant « Salut, j'ai fait HEC, toi aussi. Est-ce qu'on peut se rencontrer ?»
Mais t'es pas tombé sur un potentiel client. Bah, après, toi, tu fais du B2C, mais en B2B... tiens, comme par hasard, il a fait HEC. Oh, bah, c'est la même promo. Ou, tu vois, est-ce que.
Oui, ça peut arriver. Je pense qu'une fois de plus, c'est plus un label ou une réassurance. Tu vois, les personnes se disent, bah, tant qu'à choisir, c'est une école que cette personne a fait, que j'ai faite aussi. Tu vois, mais c'est pas non plus. Enfin, moi, je le vois pas non plus comme le secret de la réussite. Hein.
donc, du coup, à ce que tu dis exactement. J'ai jamais cherché d'investisseur.
Ouais.
Dès le début, j'ai jamais cherché à en avoir. J'ai eu un petit moment quand j'ai commencé à vouloir être entrepreneur, à penser que ça ne marche que avec des investisseurs, parce que dans l'imaginaire, tu penses que ça fonctionne, qu'il faut beaucoup d'argent pour faire une entreprise. Après, tu découvres que déjà de manière administrative, tu peux faire. Faut pas vraiment le faire, mais c'est possible, une entreprise avec 1 €. Donc, c'est pas si difficile de faire une entreprise avec peu d'argent, donc il n'y a pas forcément besoin d'investisseurs, donc du coup, les études, si c'était pour le réseau, etc., c'était pas nécessaire, je ne voulais pas aller travailler en entreprise, donc j'avais pas besoin d'une école dans mon CV, et pour les compétences qu'il fallait acquérir, je sais pas, j'ai peut-être pas choisi un métier ou suffisamment difficile, j'ai pas... Je fais pas médecine, enfin je fais pas de sciences, je fais pas, je sais pas, j'ai commencé par la production. La production, c'est juste savoir organiser tes journées, celles des autres. Alors ça pourrait s'apparenter au management, mais là on est vraiment dans le concret. J'ai pas trouvé les études qui me correspondent et de toute façon j'ai arrêté avant le bac.
Mais alors raconte-moi justement, qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets, parce que c'est quand même assez inhabituel, au sens où aujourd'hui, enfin je pense qu'il y a une pression sociale quand même assez forte,
et j'imagine en France
c'est quand même, on est dans un pays où si t'as pas fait de grandes études, bah souvent t'es moins considéré, et du coup qu'est-ce qui s'est passé, t'étais pas fait pour les études, t'aimais pas ça, enfin est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment était le petit Charles Perron et qu'est-ce qui t'a amené justement à prendre cette décision?
Donc, avant le bac, t'as pas vraiment l'opportunité d'explorer ce que tu vas faire plus tard. Je me suis même pas posé la question, puisque à cette époque, j'étais dans le cursus pour être danseur pro, classique, et il n'y avait pas d'autres échappatoires pour moi, c'était ma voix. Donc, je me posais pas la question, qu'est-ce que je vais faire plus tard, tout ça. Par contre, avec une grande peur de l'échec à l'époque, qui m'a suivi encore après, hein, pendant tout le début de mon entrepreneuriat. Je l'ai perdu, la peur de l'échec, je l'ai perdu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai cette personnalité qui fait que quand ça marche, j'arrête.
Quand ça marche, t'arrêtes. Tu continues,
tu sais,
pas.
J'ai non, c'est fini maintenant, mais j'ai adolescent et tout, j'étais comme ça. Vaut mieux que j'arrête parce
ah
que
oui.
Comme ça, je suis sûr que.
D'accord, je comprends.
Je suis la peur de l'échec, quoi. Donc, ça va avec ma personnalité. Alors, j'ai fait un bilan de compétences la semaine dernière.
Ah oui?
Je savais ces trucs de. C'est quand t'es salarié et tout. On m'a fait faire un bilan de compétences, fais un bilan de compétences, on sait jamais. Tu dis que tu sais tout et tout ça, enfin que tu sais, que tu as compris comment t'es, etc. Mais au moins, les gens, il y a des gens qui ne me croient pas. Du coup, ça me porte préjudice de ne pas avoir fait d'études.
Ouais, c'est sûr.
Il y a plein de gens, ou de ne pas avoir bossé en agence. Plein de gens me font oui, mais Charles, tu dis ça, ta stratégie, c'est ça pour telle marque. Mais. Tu l'as jamais fait. Donc c'est souvent un handicap de légitimité.
Je comprends. Et alors ça m'intéresse le bilan de compétences justement. Qu'est-ce qui en est ressorti?
Je suis le profil du créatif.
Ouais, c'est ça.
Mais bizarrement, je me sens pas comme les créatifs par exemple qui me trouvent les idées pour les campagnes pour les marques qu'on fait. Tu vois, je suis incapable de faire ça. Donc.
Mais tu sais repérer le talent créatif.
Moi, je sais repérer les gens, en fait.
C'est
voilà.
Ça, ton talent.
Repérer les gens, faire... alors, c'est un ami à moi, donc je n'ai pas encore bien assimilé ces mots, mais un ami à moi qui s'appelle Patrick Lussec, qui est directeur créatif chez Buzzman, a dit les mots exacts pour mes compétences. Donc, je n'ai pas encore bien assimilé pour bien les répéter, mais je suis la personne qui arrive à trouver les gens, trouver ce qu'ils veulent, leur objectif, et faire « Attends, je connais l'autre personne, on va mettre ensemble, je fais le puzzle. Mmh. Voilà, je fais le puzzle. Je ne sers pas forcément mes intérêts. Mais
oui,
moi, pour moi, je
tu
m'arrange.
Tu sais mettre en relation. C'est
moi,
rigolo.
Je me mettrais dedans, je m'arrange.
Je ne sais pas si tu as lu un livre qui est assez intéressant d'un auteur américain qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Tipping Point ». Le point d'équilibre, je crois, en français. Et en gros, il parle de ces personnalités comme toi, qui sont souvent des personnalités assez créatives, dont, je dirais pas la fonction dans la société, mais dont le talent, c'est en fait d'avoir une vision pour leur entourage, pour leur réseau, et qui savent véritablement mettre en résonance deux personnes ou trois personnes ou des groupes d'individus pour qu'ils arrivent à mener des projets. C'est un peu des espèces de chefs d'orchestre. Et en fait, il explique que tous les créatifs, en fait, doivent vraiment avoir cette compétence et que c'est ça aussi d'être créatif. C'est en fait de réussir à puiser un peu le meilleur chez les uns et les autres pour réussir en fait à en tirer des projets un peu exceptionnels.
Et de les adapter toujours à leur objectif.
Bien sûr.
Parce que du coup, si on sert... Moi, j'ai vécu l'expérience avec beaucoup de gens avec qui j'essaie d'être partenaire. Si on n'a pas le même objectif, ça colle pas de toute façon, même si on a les mêmes personnalités, même si...
Tu aurais un exemple, excuse-moi de t'interrompre, de ça, alors à la fois d'une réussite, je dirais, de quand tu as mis en relation deux personnalités où franchement tout le monde se disait non mais ça n'a aucun rapport et ça a très bien marché, et à l'inverse, peut-être d'une situation d'échec.
Alors les mix dans les projets, ça j'ai jamais été confronté à l'échec, donc tant mieux pour... c'est un 100% réussite pour moi. Par contre, dès que ça touche à moi, tout ce qui est partenaire, j'ai toujours fait tout seul, et à chaque fois que j'ai trouvé un partenaire, ça n'a jamais duré plus d'un an, mais jamais avec des disputes. Tu vois, jamais, c'est à vouloir forcer, alors maintenant je pense que je vais arrêter, à vouloir forcer le non, mais si, t'as le même objectif que moi.
Ouais.
Parce qu'il me faut un partenaire. Je l'ai appris, et là c'est confirmé. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était. Pas encore sûr, mais maintenant je le sais, tu peux pas faire tout seul.
C'est plus difficile, c'est sûr. On t'a pas toutes les compétences.
Moi, j'ai choisi d'évoluer dans la publicité. Alors, les études, c'est pas important trop dans la publicité, mais j'ai pas été en agence. Et j'ai pas 50 ans encore. Et faut quand même une forte légitimité dans mon secteur pour pouvoir évoluer au niveau clientèle. Donc, un de mes grands objectifs en ce moment, et je pense un de mes challenges que je vais avoir dans les prochains mois ou dans les prochaines années, c'est de trouver quelqu'un qui veut monter son agence de pub, mais quelqu'un qui sort d'une grosse agence,
ouais, quelqu'un qui veut vivre une aventure,
et qui était directeur général, pas qui était un créatif, qui a plus d'une quarantaine d'années. En général, en plus, tout mon discours et la manière dont j'entreprends, mes stratégies, etc., ça a plus d'effet sur les personnes plus âgées.
D'accord.
Pas exact, j'ai pas encore découvert pourquoi, mais peut-être qu'ils sont plus détachés au fait que j'ai pas fait d'études, que dès que c'est un peu autour de mon âge que j'essaye de réunir autour de moi, donc pas autour de projets, donc être partenaire avec moi des gens plus autour de mon âge, c'est difficile.
D'accord. Et donc là, tu es en phase de recherche justement.
Là, je cherche, oui, je cherche s'il y a un directeur de grosse ou pas forcément grosse agence qui écoute ce podcast et qui en a marre de son agence et qui a un poste important, mais même directeur général, directeur financier, pas forcément un créatif ou pas forcément quelqu'un qui est dans l'opérationnel, qui a beaucoup d'années d'expérience dans la publicité. Et souvent, c'est le cas, hein, partir, créer soi-même sa boîte quand tu n'as jamais été entrepreneur.
C'est dur de le faire seul, ouais.
Même savoir monter une boîte. Alors, quand je demande, c'est sûr, un DAF, il sait comment on monte une boîte, mais moi, j'en suis à déjà plus d'une dizaine d'entreprises créées. Donc, à ce niveau-là, j'ai plus d'expérience qu'un. Mais on me l'a conseillé, moi qui commence aussi à m'intéresser à tout, parce que on a l'ambition de créer un fonds d'investissement, donc m'intéresser un peu au côté investisseur, ce qui ne m'intéressait pas du tout avant, on me dit, le plus, mis à part avoir un bon projet, un bon business plan, tu t'associes ou t'engages, pas forcément t'associer, mais ça, faut les moyens quand même. Un DAF qui a été 20 ans chez LVMH, t'inquiète pas, après tu auras les budgets dans le luxe, tu les auras.
C'est sûr. Donc, et comment tu t'y prends du coup pour chercher? Parce que ça aussi, c'est une question, beaucoup d'auditeurs me disent comment trouver le bon associé, quels critères rechercher. Donc toi, j'ai l'impression que déjà tu as une vision assez précise du type de personne que tu cherches, donc quelqu'un qui est plus un gestionnaire ou un commercial et qui a de l'expérience, donc plus âgé, comme tu dis.
C'est censé être moi le gestionnaire. Donc,
t'as une démarche particulière que tu pourrais conseiller?
Déjà, comme tu le dis, faut, et c'est comme tout quand tu fais, bien connaître sa cible. Déjà, tu fixes ta cible avant même de commencer à chercher. Faut être sûr de ce que tu veux. Après, tu peux te tromper, hein. Tu peux penser que t'as besoin de quelqu'un comme ça. Tu prends, ça fonctionne pas. Moi, c'est parce que j'ai essayé plusieurs profils déjà que j'ai trouvé ma cible.
Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas en général?
Je pense que il y a eu beaucoup de problèmes de confiance. Confiance par rapport à ma légitimité, par rapport au secteur, par rapport à mes légitimités en termes d'études.
D'accord.
Ça revient à ça, malheureusement. Dur à entendre, mais je l'ai quand même... Je l'ai bien vécu, je l'ai assez vite absorbé pour le vivre bien assez rapidement, mais malheureusement, c'était beaucoup ça. J'ai de l'entourage proche, je sais que ça pêche. En gros, je ne peux pas leur redire même des gens qui sont en opérationnel, je ne peux pas leur redire quelque chose sur leur travail. Je ne redis pas, parce que je ne suis pas du genre à donner des ordres, ce n'est pas la dictature. Mais c'est difficile d'échanger avec eux sur leur méthodologie de travail, parce qu'on va me répondre, c'est quoi ta source en fait? C'est quoi ta... Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui me dit que... Donc il y a un problème de confiance. Et ce problème de confiance, je pense que si je m'associe à quelqu'un plus âgé, etc., je m'achète la confiance. Comme quand j'ai créé Marty au tout début, c'était une agence de talent dans le sport électronique, dans l'e-sport. Je me suis associé avec une très grande célébrité de ce milieu-là.
D'accord.
J'ai acheté ma notoriété. Voilà. Donc, les personnes faisant confiance à cette personne me faisaient confiance indirectement. Sinon, ils ne se seraient pas associés avec moi. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de convaincre la planète entière. Il faut que je convainque des personnes stratégiques. Mmh. Et en général, j'arrive mieux à convaincre des personnes plus âgées.
D'accord. Ok, intéressant. Écoute, on est parti un petit peu loin des études et tout. Je veux bien qu'on y revienne, même si après on parlera de Marty, bien sûr.
Non, les études, le bac, je ne l'ai pas eu. Et pourquoi je ne l'ai pas eu? C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter?
Oui, en gros, du coup, d'après ce que je comprends, quand tu étais plus jeune, tu voulais être danseur pro.
Ouais.
Et donc,
j'étais mauvais. j'étais nul. Mais j'ai commencé très tard. Je suis d'une longue lignée de grands danseurs, etc. Et j'ai commencé vraiment tard.
Donc, ta famille, je ne dirais pas t'as imposé ça, mais par culture, en gros, tu as été un peu plongé dans la marmite et tu n'as pas tellement réfléchi. Naturellement, tu t'es dit « je vais être danseur ».
Non, alors je ne vais pas dire qu'ils me l'ont avec le recul. Je ne vais pas dire qu'ils m'ont forcé. Hein, parce que ils m'ont laissé le choix, ils m'ont parlé, ils m'ont dit tu veux faire ça, j'ai essayé, j'ai fait les stages d'été, ça m'a plu, go. Mm. Donc j'ai pas été forcé, j'ai pas eu ce truc de pression. Par contre, une fois que t'es dedans et que tu te décides à en faire ta carrière, j'ai commencé super tard, va falloir rattraper le niveau, il va falloir beaucoup beaucoup travailler.
Surtout que c'est censé être très très dur comme étude.
C'est donc beaucoup beaucoup travailler de quelque chose où il faut déjà beaucoup beaucoup travailler quand t'as commencé à 5 ans. Mm. Donc bon, après tu fais des sacrifices, tu fais pas du classique, tu vas peut-être plus te diriger vers le contemporain parce que t'auras jamais le niveau en classique. Mais moi j'ai jamais été un mordu de travail en fait. Je suis assez feignant. D'où le bilan de compétences que j'ai. Toi, je vois toujours le verre à moitié rempli. Pas, tu vois, je vois que le positif. J'esquive les problèmes par l'humour. J'esquive les problèmes par si on fait comme ça marche pas, donc je vois que les trucs positifs.
Bah, tu sais, il paraît, on dit, il y a beaucoup d'ouvrages qui disent que les grands entrepreneurs sont des personnes qui voient toujours le verre à moitié plein parce qu'ils voient les opportunités et ils aiment presque les problèmes, donc c'est certainement une des raisons de ton succès.
Mais du coup c'est pas quelque chose de très stable. Mais c'est donc au moment, pour revenir sur cette partie de la vie où t'es au bac, etc., c'est une partie de la vie qui est quand même stable, qui est quand même très cadrée. Tu vas au lycée, tu passes tes années, il faut aller dans la classe supérieure, il faut passer le bac. Il n'y a pas d'autres,
c'est
quand
un
on est
chemin
adulte,
tout tracé, quoi.
On a quand même, même si la société veut que tu suives quand même des routes, mais si j'ai envie de dormir dehors, je dors dehors. Quand t'es ado, t'es sous la tutelle de tes parents, fais pas ce que tu veux. Et il n'y a pas des multiples possibilités. Et donc, du coup, pour moi, c'était pas le verre à moitié plein. Tu vois ? C'est en discutant avec toi que j'analyse ça, parce que j'ai fait la semaine dernière mon bilan de compétences. Donc, j'ai pas encore les. J'ai pas travaillé ma communication avec mon attaché presse en interne. Tu veux préparer. T'es sûr, tu veux pas préparer l'interview avec Pauline et tout ?
Je suis plutôt sympa en général, t'inquiète pas.
Donc, je pense que ça vient de là, le bac. Le fait que j'ai pas passé le bac, etc. Et puis, j'arrêtais pas de redoubler, j'arrêtais pas. Si c'était pour redoubler encore mon année de terminale, mon année de première, je vais pas faire le lycée en 6 ans, tu vois. Donc, ça rentrait pas, j'assimilais pas les trucs. Normalement, on fait un déblocage, les gens, les cancres, entre guillemets, ont
des
déblocages au lycée.
Ouais.
Je l'attendais, quoi.
Et du coup, le jour où tu décides et où j'imagine tu dis à tes parents « Ok, stop, j'en ai marre », est-ce que tu peux me raconter un peu cette conversation ? Parce que j'imagine que c'est pas simple, ou peut-être qu'ils étaient soulagés, je m'en rends pas compte.
Soulagés, non. Même parents ultra ouverts comme les miens, aucun parent peut être soulagé quand t'es chez ta copine l'été dans le sud de la France. Ton père passe te prendre en voiture parce qu'on est d'origine italienne, pour partir en Italie dans la famille, il passe te prendre en voiture dans le sud en venant de Paris pour partir en Italie avec ta copine, et que dans le trajet de voiture il n'y avait pas ta mère, tu t'expliques à ton père qu'à partir de la rentrée tu vas emménager avec ta copine à Paris. Je quitte les études, je vais lancer ma boîte. On était loin de tout ça encore. Je vais quitter la maison pour. J'en ai marre, la danse, j'ai redoublé encore la danse.
Tu vivais complètement dans l'instant présent, quoi.
Je vais quitter, et je vais vivre avec ma copine, et tu vas faire quoi ? Je serais même incapable de te dire ce que j'ai répondu à ce moment-là. Je ne sais peut-être pas. Mon père est assez ouvert, fait oui, oui, très bien, mais par contre, tu te démerdes, parce que du coup, je ne vais pas te financer ton appartement si tu ne fais pas d'études. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Mais très bien. Et ça s'est fait assez vite, en fait. J'ai pas de flou dans ma mémoire sur ce moment de ma vie, mais ça s'est fait. Le dimanche, le fin du mois d'août, on trouvait un appart. à partir de septembre, c'était la rentrée. Ma copine allait faisait des études de communication visuelle, elle partait en cours. Et moi, j'ai commencé à me dire bon, maintenant, quel est le milieu que
qu'est-ce
je connais
que je vais faire,
voilà,
ouais.
C'est ça.
Mais alors justement, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais le premier jour ou en gros, après les quelques jours de vacances, de machin, d'emménagement, etc. Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te dis je vais devoir me débrouiller. Je n'ai pas mon père pour me soutenir. Je vais devoir me créer mon job.
Puis je vais devoir payer mon loyer le mois prochain. Quoi. Donc,
qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux me décrire un peu ce que tu fais?
Alors, c'est une super bonne question parce que je pense que je n'ai jamais pris le recul sur qu'est-ce qui s'est passé cette journée. Et je pense que c'est assez intéressant. Il n'y a pas eu d'attente parce qu'il fallait que je paye le loyer.
Bien sûr.
Tu vois, et puis, il fallait assumer d'être parti. Et puis, j'avais plein d'idées. Donc, je suis arrivé, je me suis posé, j'ai fait... moi, je veux... Je pense que j'étais déjà... je veux travailler dans le milieu. Tu sais, donc, le milieu chez moi, c'est le milieu artistique. Tu vois, alors
Le spectacle,
etc. Plus artistique, donc tu n'as pas de pub. Je voyais pas encore. Donc je me suis dit, j'ai vu toute mon adolescence, etc. Comment repérer un artiste pour qui a du talent, comment il est accompagné. J'ai vu tout ça.
Oui, parce que tes parents étaient producteurs aussi.
Après, mon père à cette époque était déjà producteur. Après la danse, il est parti du côté technique. Direction technique, et maintenant il est directeur de production. Il a eu plusieurs sociétés de production, et maintenant il est directeur de production au Béjart Ballet à Lausanne. Et donc, du coup, j'avais la vision, je voyais un peu comment tout ça fonctionnait de l'extérieur. N'oublions pas que j'avais 18-19 ans, je ne savais pas, je n'étais pas capable de le faire. Hein. Et je me suis dit, j'étais très très connecté, je programmais, etc. Et je me suis mis, j'ai fait un blog.
D'accord.
Voilà, j'ai fait un blog où je faisais de la veille sur. Il y avait beaucoup moins d'outils pour faire de la veille avant et de sites, mais j'allais chercher des jeunes artistes, etc. Et je faisais des articles sur eux. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis mis à monter un média.
Qui était Start,
qui a été une web TV. Où je faisais tout simplement. Alors, je grossis pas les choses. Hein, je faisais tout simplement prendre le contenu des gens sur Dailymotion, puisqu'il n'y avait pas encore énormément YouTube. À l'époque, YouTube, c'était que les vidéos de chats. Pour ne pas mentir, j'appelais pas les artistes au début parce que j'avais pas pigé qu'il fallait demander l'autorisation. Et je réuploadais sur mon site de streaming.
D'accord.
Voilà, donc j'avais un site de streaming où les vidéos passaient comme une chaîne de télé.
Et donc t'uploadais des concerts, des ballets,
mais des choses culturellement, artistiquement, des indépendants.
Pointues, ouais.
Pointues, pas forcément, hein, parce qu'il fallait que je fasse de l'audience. Voilà, je venais d'Internet. J'étais joueur de jeux vidéo, etc. Si c'était pour travailler, fallait que je gagne ma vie en plus. Donc, si c'était pour faire quelque chose qui faisait deux vues.
J'allais te demander, est-ce que quand tu l'as fait, je comprends que tu avais cet historique avec ta famille et donc tu as utilisé cet ADN et cet avantage compétitif, on va dire. Mais est-ce que tu avais une vision quand même que ça serait quelque chose qui te permettrait de gagner de l'argent? Parce qu'à l'époque, c'était en quelle année ça?
Ça fait 11 ans.
Ouais, c'est ça, une dizaine d'années. C'était quand même les blogs à l'époque, surtout dans le milieu artistique. C'était vraiment hyper naissant.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait un blog mode, moi.
Ouais, mais alors, est-ce que tu avais quand même cette vision que ça serait un moyen pour toi de gagner de l'argent ou pour toi c'était juste une manière de t'occuper? Je sais pas.
Non, j'avais une stratégie bien précise qui était assez utopique. Souvent, à 20 ans, on a des idées assez utopiques de changer le monde. Donc, j'ai eu cette période classique. C'est pas possible, surtout en musique. Comment les artistes peuvent se faire avoir par les majors et les grandes industries? Ils en ont pas besoin pour réussir, ou du moins pas de cette manière. Après, avec le temps, j'ai évolué mon discours. Je peux les aider. J'étais persuadé que je pouvais les aider, leur donner les clés. Et c'est comme ça que je me suis approché du métier plus de manager. Et comme j'avais le blog où je faisais... il me fallait un point d'entrée, donc j'ai créé un média pour rentrer, pour se faire inviter et essayer d'aller rencontrer des artistes et des gens de ce milieu. le meilleur moyen, c'est d'être presse.
C'est ça. Donc, en fait, tu avais créé ce média pour avoir accès finalement à des personnalités ou sinon, tu n'aurais jamais pu les aborder.
Voilà. Donc, avoir l'audience et l'audience, ouais. Ça t'apporte la légitimité.
Et après, en plus de cette première activité, tu as créé des activités de management d'artistes.
Voilà. Et donc, quand tu rencontres les bons artistes et ceux qui sont... qui vont devenir connus avant, tu leur proposes, ah bah, je peux m'occuper de toi, tu pars en tournée avec eux, comme tu as une web TV et que bah, je me mets à filmer, donc je me mets à faire les métiers de la production d'à partir du bas, et puis j'évolue comme ça, et je me rends compte que tous les métiers marrants de ces milieux-là, etc., ils sont inaccessibles, parce que tout le monde veut les faire, donc la communication, la publicité, même le film, etc., et que moi je suis très très jeune, donc politiquement, il y a encore moins de raisons qu'on me file des trucs. Parce que c'est tous ceux qui sont galérés depuis 10 ans à faire des études, mais encore, il n'y a pas beaucoup d'études dans ces milieux-là, mais bosser en boîte de prod, en agence, etc., pourquoi on refilerait les plans à moi ?
Ouais.
Donc, j'ai choisi un métier qui était...
moins sexy.
Ouais, mais vraiment moins sexy. Demandé.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu réfléchis toujours en permanence à l'opportunité de marcher, tu vois là où il y a toute la concurrence, parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils créent des entreprises justement qui se disent c'est une bonne idée, je vais foncer, mais qui regardent pas la concurrence, qui regardent pas vraiment le fait que c'est la guerre nucléaire dehors et que c'est très très difficile de percer. Toi en fait, tu connaissais ton avantage compétitif, le fait de connaître très bien le milieu artistique, de savoir repérer des talents comme tu dis, mais en plus ce que je trouve assez génial, c'est que tu vas en fait au sein de tout ça dire m'adapter. Ok, pour toi l'opportunité elle est où? Elle est là où il y a une niche sur le marché, et donc plus sur la partie management administrative.
Oui, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai appliqué ça globalement dans ma stratégie d'entreprise. Mmh. Je m'adapte, en fait. Et c'est ce qui peut parfois être très lourd pour mes collaborateurs ou les gens, même mes partenaires. Pas que, mais les gens qui bossent avec moi en partenaire ou en salarié. C'est que du jour au lendemain, je peux changer totalement la direction de la boîte parce que je l'adapte aux opportunités, aux situations. Et à l'époque, quand j'ai démarré, je suis honnête, je le faisais pas parce que j'avais ce défaut de dire ah oui, je peux tout faire. Mais maintenant, je le fais. Maintenant, je rajoute ce canot dans la limite des choses que je suis capable de faire ou que mes ressources sont capables de faire.
Et alors ça m'intéresse énormément parce que ce côté adaptable, je pense que c'est vraiment un des facteurs clés de succès quand t'es entrepreneur. Dans le jargon, on dit souvent pivoter pour une boîte, etc. Mais toi, c'est même à un niveau encore plus important. Est-ce que tu peux me raconter un exemple où ça t'est arrivé peut-être avec Marty Agency, okay. Donc une boîte de pub. Comment est-ce que l'idée t'est venue et à quel moment en fait tu te dis cette opportunité, j'y crois vraiment et je le fais. Quel est un peu le processus de pensée, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui se disent j'ai identifié une opportunité. Mais en fait, il faut que je reste disciplinée, il faut que je continue, il faut que je continue à faire ce que je fais bien, etc. À quel moment tu te dis non, mais en fait, je vais pivoter et je vais passer sur un autre business ?
Marty est le meilleur exemple pour ça, donc c'est bien que tu rebondisses sur Marty, puisque Marty au départ était une agence de talent. Donc une agence de talent d'influenceurs, très exactement, mais on prenait pas, à la différence, moi je dis le mot talent parce qu'on n'avait pas les gens qui ont des millions d'abonnés. On avait les gens vraiment qui ont un talent. D'accord. Donc des commentateurs sportifs, e-sportifs du coup, puisqu'on faisait de l'e-sport, des journalistes, donc des gens dont leur talent n'est pas leur notoriété personnelle ou leur image.
Ouais, je comprends.
Voilà. Donc agence de talent. Pour créer cette agence de talent, j'ai utilisé mes compétences, mon expérience et mes compétences que j'ai développées pendant 10 ans, qui est le management. Repérer les bonnes personnes, savoir les gérer, savoir les monétiser. Et on a fait un switch au bout de 2 ans. Donc, il y a maintenant, ça fait 1 an, en janvier 2018. On a switché, on arrête l'agence de talent, alors qu'on avait les plus gros talents signés chez nous en France, dans l'e-sport. On a switché en agence de publicité.
Ouais, c'est ça.
Donc, qui est quand même...
Tu passes d'agence de talent e-sport à vraiment une agence de publicité plus classique, entre guillemets, quoi.
Oui, et classique, donc créa. Mais c'est classique. Je ne révolutionne pas la publicité. Hein. La spécificité qu'on s'est donnée est moins classique, mais ça reste dans le même milieu. Parce que du coup, les influenceurs, c'est de l'achat média. Un bout de l'achat média, pas tout l'achat média, mais ça reste de l'achat bien média. Sûr. Et quand tu gères, tu pilotes une campagne de pub, tu gères aussi l'achat média. Donc c'est un bout.
Bien sûr.
Je suis pas non plus, j'ai pas changé de secteur.
C'est dans la chaîne de valeur,
ouais. Oui, je suis resté dans la chaîne de valeur. Mais comme j'ai toujours été dans cet objectif de d'indépendance forte et je crée d'être toute la chaîne de valeur sans une situation forcément de monopole, hein. Mais c'était juste parce que stratégiquement, moi qui suis un gestionnaire, c'est beaucoup plus facile pour contrôler les coûts. Et je pense que les coûts dans la publicité sont beaucoup trop élevés et qu'on peut un peu les réduire.
Tu veux dire pour les annonceurs ?
Si on contrôle la chaîne de valeur, bah quand t'es annonceur, de te payer une agence,
oui, ça coûte rapidement très cher.
C'est très rapidement.
J'en sais quelque chose.
Tu le sais avec Jumio. Donc, et c'est pas faute que t'aimerais bosser avec une agence. Mais et au final, du coup, tu fais la créa en interne et c'est ce que fait ce que fait beaucoup de monde. Donc, du coup, j'ai fait. C'est l'exemple que tu voulais. J'ai fait ce switch.
Et alors, justement, qu'est-ce qui t'a amené à le faire ? Est-ce que c'est que tu fais de la veille, que tu as vu l'opportunité plus de la publicité ? C'est juste une envie personnelle. À quel moment tu te dis, j'ai un business qui marche dans l'e-sport, dans l'influence ?
Parce que
ça fonctionnait très, très bien, comme tu dis.
Et c'était pérenne, enfin, ça tournait
c'était
tout
rentable,
seul.
C'était rentable, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Pourquoi tu prends cette décision ? Et est-ce que tu aurais des conseils même à donner à des personnes qui se posent la question quand ils voient une opportunité ? Comment tu sais s'il faut y aller ou pas, quoi ?
Alors déjà, dans cet exemple, pour être concret, j'étais associé donc avec une personne qui s'appelle Thomas Zaboutine, qui est une personne très connue dans l'e-sport en France, qui était vraiment mon point stratégique d'influence pour faire ce métier-là, donc pour garder les influenceurs chez nous. Cette personne a été recrutée par une très grande équipe de jeux aux États-Unis. Donc, on en a discuté ensemble. Le plus stratégique, parce que moi, je ne suis pas égoïste, c'était qu'il parte. Parce que de toute façon, il n'avait pas des objectifs de Marty.
D'accord.
Il était moins entrepreneur que moi. Lui, c'était plus sur sa carrière. Et donc, stratégiquement, Marty était utile, mais c'était encore plus utile qu'il parte là-bas.
D'accord.
Et puis, c'était extrêmement... les salaires devenaient démesurés par... Genre,
d'accord.
Puis, et donc... On l'a laissé partir. Enfin, je. Il n'y avait pas d'autres personnes. Et du coup, légalement, il a été obligé de revendre ses parts, de quitter Marty. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où la personne qui tient les talents chez nous, parce qu'en vrai, tout le monde est pote, et lui, il est influenceur, et donc il est pote avec les autres influenceurs, n'est plus là. Avant qu'il y ait un clash et que les gens partent et qu'on fasse... couler la boîte, j'ai pris la décision de switcher. Donc déjà, il y a quand même une base
d'accord.
où je me suis retrouvé à devoir switcher en transparence parce que c'était nécessaire. Mais dans tous les cas, moi, personnellement, je n'avais pas l'ambition de faire une agence de talent. Donc l'agence de talent, pour moi, c'est un bout. Quoi. Et ça faisait des années que je voulais faire une agence de publicité.
Oui, mais
j'ai
tu
grandi
m'as déjà
dans
dit.
La prod, je sais repérer les talents, j'ai toutes les ressources, je gère... le portage salarial de, d'énormément de créatifs en France, dont les plus connus. En théorie, je l'ai toujours pensé depuis le début, j'ai toujours été capable, en théorie, je le dis bien, de récupérer une campagne, de récupérer demain la campagne à 1 million. Sauf que dans la réalité, après, j'ai pas 100 salariés au bureau capables d'assumer les campagnes à plusieurs millions. Donc, c'est pas possible, mais du coup, j'ai pris le risque. J'ai
d'accord.
fait, vas-y, j'ai les ressources, j'arrête pas de dire que je suis capable de le faire. Si je tente pas, ça ira pas. Enfin, je le ferai jamais, du coup.
Oui, donc, c'était un projet que t'avais depuis, mais tu me l'as déjà dit d'ailleurs, que t'avais toujours, entre guillemets, rêvé de créer une agence de pub, et qu'au final, c'est presque un prétexte. Enfin, c'est aussi qu'il fallait sauver la situation, mais t'as eu ce prétexte, en fait, du fait que ton associé quitte la boîte pour te dire, bah, en fait, de toute façon, ça a plus marché de la même manière. Il faut que j'innove, tout simplement.
Et voilà. Et avec le verre à moitié plein, j'ai repéré exactement tous les alignements de planètes. J'ai forcé les planètes à s'aligner d'elles-mêmes. Donc, j'ai trouvé toutes les choses qui faisaient que c'était une très bonne idée de faire un switch.
Ouais.
J'ai trouvé la très bonne planète stratégique, mes partenaires créatifs étaient dans des situations professionnelles où c'était pile les bons moments pour eux. Je trouve les bonnes excuses à chaque fois.
Mais on dit souvent, c'est rigolo, que finalement, tu vois, quand tu es prêt psychologiquement à vraiment franchir un cap, en fait, tu te rends compte que les opportunités, elles sont là et tu n'as plus qu'à allonger le bras pour les saisir. Et finalement...
Mais tu crées tes opportunités,
tu crées
de toute façon. Après, tu peux voir les trucs négatifs. ça n'a pas été si facile que ça, hein, puisqu'on avait un fort. Après, on vend toujours du talent. Hein.
Bien sûr.
Mais c'est devenu tellement facile pour nous, puisque j'ai accès à tous les talents. Et maintenant, depuis plusieurs. J'ai tous les talents en France, en Amérique, et maintenant en Asie. Donc, on veut un talent, je décroche mon téléphone, dans l'heure, le client a le talent. Donc, l'achat média, je l'ai. Il me coûte un peu plus cher parce que du coup c'est plus moi qui ai signé tout le monde, mais c'est pareil en fait. Donc du coup les opportunités, oui c'est ça, je les ai inventées quoi.
Et alors pour parler plus précisément du métier maintenant chez Marti, donc d'une agence de pub, je trouve ça toujours très intéressant. En plus, c'est un monde, je trouve, qu'on ne connaît pas très bien quand on est extérieur. Non. On a un peu l'image d'Épinal, du Bec BD, tu vois, et de...
Ouais, c'est ça, de 99 francs.
Exactement. Et une de mes questions, c'est déjà pour toi, aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances ou où en est le milieu de la publicité? J'ai quand même la sensation personnellement qu'on est un peu à une croisée des chemins, tu vois, des grosses agences qui facturaient des prix très très importants aux grands groupes, et qu'en fait aujourd'hui on essaye d'être quand même dans une dimension plus créative, avec des budgets qui sont plus limités, et surtout sur plein de supports. Ça c'est internet, c'est le web qui fait ça, c'est qu'en fait on a besoin de tellement de contenu que maintenant il suffit pas de créer une campagne pour être à la télé, en fait t'es obligé de multiplier en permanence tes contenus.
Oui, maintenant le digital c'est fini. Exactement. La tendance du boulot des agences il y a quelques années, c'était la digitalisation des marques. Ça, c'est fini. La grande mode maintenant, c'est la content factory. Donc, créer du contenu.
Ouais.
Donc, voilà. Créer content factory, c'est les marques qui ont de plus en plus besoin. Et c'est plus. C'est concret maintenant. C'est tous les jours. C'est plus une stratégie nouvelle pour elles. Elles ont besoin d'énormément de contenu pour alimenter leur réseau et échanger avec leur clientèle, leur communauté. Et donc, du coup, c'est plus forcément des agences créa en tant que telles qui trouvent juste des idées. C'est surtout des studios, c'est des usines à création de contenu, quoi. Mmh. Et c'est pour ça que a beaucoup émergé aussi des sociétés de production qui ont pris le pas sur les agences de publicité, qui se sont transformées en agences de pub.
Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui connaissent pas du tout ce secteur, une agence de pub, habituellement, comment ça fonctionne?
Alors une agence de pub créative, quand même, à différencier des agences de communication. Hein. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas vraiment le même métier. Une agence de publicité créative, parce que nous, c'est ce qu'on est, donc c'est de ça dont je vais parler. Concrètement, une marque ou une entreprise, hein, pas forcément B2C, hein, a besoin, sort un nouveau produit dans l'année à plusieurs temps forts. Elle a besoin que ce produit soit vendu sur une certaine cible, celle qu'elle veut, hein, peut changer tout le temps, elle peut avoir des produits par cible différentes, ça peut se complexifier. Pour ça, elle a besoin de communiquer auprès de cette cible pour augmenter les chances de vendre son produit. Parce que son produit peut être très bien ou pas bien, ça n'a pas d'importance. C'est de la manière dont il va être vendu. C'est de la vente, c'est de la pub, c'est du marketing de base. Et donc pour ça, on va faire appel à une agence créa. Cette agence créa, son boulot, ça va être de comprendre exactement ce que veut l'identité de la marque, ce qu'elle veut, son objectif, comment elle veut le faire. Et avec ces informations-là qu'on appelle le brief, elle va trouver une idée créative pour le vendre. Et elle va présenter plusieurs idées créatives, des lignes directrices, et de ces idées créatives qu'on appelle insight, elle va créer des activations, donc comment concrètement mettre en œuvre cette stratégie. Donc elle va faire une recommandation stratégique, elle va donner des conseils. Nous, on vous conseille de faire comme ça, voilà notre stratégie, voilà la ligne directrice de la stratégie, et voilà comment on va l'appliquer. On va faire un film, on va faire du contenu pour vos réseaux sociaux, un shooting photo, un event, beaucoup d'activations, et elle va vendre leur idée et les activations. Les activations ensuite sont produites soit par l'agence, soit par une société de production. Et ouais. Donc, c'est pour ça qu'on différencie une agence de pub et une boîte de prod.
C'est ça. Voilà. C'est quelque chose que moi-même, en arrivant chez Gémio, je ne connaissais pas du tout. Et j'étais persuadée que toutes les boîtes de pub produisaient les contenus. Mais c'est assez rare.
Beaucoup. Il y en a quand même beaucoup qui le font. Nous, par exemple, moi, j'ai créé une boîte de prod exprès pour produire le contenu. Voilà. Mais il y a ce qu'on appelle des studios craft. Ça veut dire que... mis à part pour les films, dès que ça devient, en fait, c'est dès que ça devient un peu gros, quand c'est des très gros budgets,
oui, tu peux
un
pas.
Film, oui, il donne les guidelines créatives, l'agence, mais l'exécutif pur et dur, ils appellent une grosse boîte de prod de films, leur disent, ça va, on veut le truc que ce soit comme ça, c'est, ils ont le storyboard,
oui, c'est très
précis. Et ils font juste, le boîte de prod fait juste exécuter, et on a tel budget, il faut que vous rentriez dans ce budget, voilà. Mais il y a quand même des agences de pub, surtout les indépendantes, qui craftent en interne, mais pas pour les gros trucs. Pour les visuels, des, tu vois, voilà. Donc, voilà comment fonctionne une agence de pub. Et donc, voilà comment nous aussi, on fonctionne.
Chez Marty.
Ouais, chez Marty.
J'aimerais bien te poser une question aussi. C'est sur justement... Enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast ou même des personnes qui travaillent dans des groupes, dans des directions marketing, ce genre de choses, qui, je pense, se disent, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre ou est-ce que, comment faire pour réussir justement à faire émerger ma campagne, mon lancement, produit, peu importe, ma marque en fait dans le cadre d'un entrepreneur. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Parce que je sais qu'avec Marty, vous êtes assez spécialisé quand même sur le brand content, mais je trouve avec quand même une ADN assez décalée et assez forte justement en termes d'émergence. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes comme ça qui s'intéressent à ces sujets marketing, communication, pour réussir justement à faire émerger leur lancement produit, campagne ou peu importe ce que c'est?
Déjà, nous, je ne sais pas si c'est prévu dans les questions, mais nous, mis à part qu'on est une agence créa classique, on est quand même très spécialisé, puisque nous, on fait exclusivement la génération Y et Z.
D'accord.
Donc, on est spécialisé dans cette audience-là. Comme on vient du jeu vidéo, on vient de la mode de base, mais que Marty, son ADN, quand on a été créé, c'était le jeu vidéo et l'e-sport, c'est le médium culturel préféré et bien le sûr. Plus engageant chez la génération Y et Z. C'est ce qui nous a permis, ça plus ajouter mes années d'expérience avec dans la musique, la mode, etc., de bien les connaître. Et donc, on s'est spécialisé en ça. Donc, nous, c'est ce qu'on vend.
Et on doit leur ajouter.
On ne répond qu'à ces briefs-là. Et c'est ce qui fait notre élément concurrentiel, parce qu'il n'y a pas d'agence spécialisée dans cette audience-là. Toutes les agences font pour cette audience-là. Mais nous, on fait vraiment que pour cette audience-là. Voilà.
D'accord.
Donc, quand par exemple, on a fait ensemble sur Figaro et Paris, peut-être que c'était pas pour les jeux vidéo, mais ils voulaient quand même une cible, les entrepreneurs, etc., qui sont assez jeunes.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Donc, il y a toujours une dimension où ça rentre. Après, on arrive à caser les jeux vidéo ou pas. Et donc, fallait que je le précise parce que du coup, ça ferme un peu mon champ d'activité. Et tu me demandais des conseils pour les entrepreneurs ou pour même les autres, puisque je sais qu'il y a aussi des directeurs, directrices de communication ou marketing qui écoutent le podcast. C'est quand même deux clans séparés. Hein. Les entrepreneurs, par exemple, toi, Pauline, entrepreneuse chez Gémio, c'est quand même pas les mêmes conseils. Ceux qui travaillent dans les grands groupes ont l'habitude de travailler avec les agences. Donc, concrète, à eux, je peux pas leur donner de conseils. Ils savent comment on fait, ils ont l'habitude. Mis à part que quelques guidelines stratégiques pour eux pour plus tard, arrêtez de penser comme d'hab, ça va bouger. On est en content factory pour le moment. Vous devez faire énormément de contenu pour vos réseaux sociaux. Vous devez le voir avec vos statistiques que ça fait pas tellement sans achat média en organique de vues. Ni d'engagement. Je sais que c'est très difficile de choper le tracking, de voir combien, si vraiment ça a traqué, ça a généré des ventes, même si maintenant avec les Facebook ads, etc., on peut facilement voir plus, mais les pixels et tout. Mais ça reste dans de l'achat média, dans du organique. Tu sors un film, tu le postes sur ton Instagram. Ouais, tu peux voir si ça a redirigé sur le site, mais en vrai, tu peux pas vraiment savoir. Surtout quand tu es une grosse marque et que tu fais beaucoup de choses. Donc, qui te dit que c'est sur le film qui fait que les gens cliquent? Arrêtez le snack content.
Le snack content, qu'est-ce que c'est?
Tu sais, ce beaucoup, tous ces petits contenus hyper courts, hyper rapides, très rapides à produire et poster 10 fois, et tu postes 10 fois par jour des trucs, etc. Surtout sur les générations Y et Z.
Pourquoi ça?
Et parce que Netflix nous l'a appris, le fond va commencer à être plus intéressant que la forme.
Enfin.
De toute façon, c'est des cycles. Hein. Donc, il est bien qu'au bout d'un moment, ça revienne. Ça tombe bien. C'est pile au moment où je monte mon âge, où j'ai une ambition de faire de la pub. Mais le fond va être plus important que la forme. Tu le vois avec tes podcasts. Les gens l'écoutent pendant 1 heure.
Mm-hmm.
Tu vois. Donc, et les gens écoutent le fond.
Mm-hmm.
En vrai, le podcast n'est pas la meilleure des formes pour
Ah non.
Non, vaut mieux faire un film ou une vidéo de 3 minutes sur Combini. Tu vois, en vrai, pour un truc plus digeste.
Bien sûr.
En format.
Non, c'est autre chose.
Donc, ça prouve bien, le podcast est l'exemple type que le fond prend de plus en plus d'importance. Et c'est pas que entre guillemets, les vieux qui écoutent les podcasts.
Bien au contraire.
Ouais. Oui, c'est les audiences sont très jeunes. Moi, je le vois avec les jeux vidéo. Quand tu regardes un live sur Twitch, tu y passes beaucoup de temps. Donc, vraiment le slow content. C'est quelque chose. En plus, pour les petits entrepreneurs.
Justement, j'allais revenir aux petits aux entrepreneurs du coup.
Aux entrepreneurs, aux startups, etc. Ça vous coûte moins d'argent. Ça vous coûtera peut-être plus d'argent de produire un contenu de slow content, mais vous n'avez pas en poster tous les jours. Tu vois.
Oui, puis donc, en termes de bande passante aussi au niveau des équipes, c'est vrai que oui, c'est un projet.
Puis t'as pas les moyens de te payer une agence. Donc, quand t'as les moyens de te payer une agence, que t'as fait une levée de fonds et que stratégiquement tu as compté dans ton budget que tu vas prendre une agence pour faire beaucoup de contenu, continuez, ça fonctionne toujours. Hein. Donc il y a ce truc du slow content. Et il y a deuxième truc, je pense que. Mais je parle vraiment toujours le segment que je connais, les jeunes, Y et Z. Hein. Je pense que, et c'est très bizarre, hein, mais je pense qu'ils lèvent la tête de leur téléphone maintenant.
Ah ouais?
Ouais, je pense que on a tellement été sur le mobile, le digital, etc., parce que c'était pas cher, parce que c'est du virtuel, donc le virtuel coûte moins cher que le réel, qu'on a totalement abandonné la visibilité sur le monde extérieur. On a saturé le mobile et l'ordinateur, c'est très très difficile de prendre du temps de cerveau parce qu'il y a énormément de concurrence là-dessus.
Ouais.
Par contre, quand il lève la tête, il voit plus rien. Il y a rien, il se passe rien. Enfin, mis à part le monde, hein, mais ouais, au niveau publicitaire, il se passe rien.
Oui,
les prints, il y en a de moins en moins. Je dis pas qu'il faut faire des prints. Hein. Je reste dans quelque chose de philosophique. La solution concrète, ça dépend de chacun. Tu vois, ça dépend de ce que tu vends, quel est ton produit et tout.
Et donc toi, tu penses qu'il y a un retour vers le réel.
Je pense qu'il y a un retour vers le réel. Je pense que, en plus, ils sont dans toute cette mouvance pour la génération Z. Moi, je le vois. Ils ont pas Facebook. C'est même plus le truc de c'est has-been, mes parents, pour mes parents. Ah non, ça, ils l'ont dépassé, cette étape. Genre, ils n'en parlent même pas de Facebook. Quoi. Genre, ils disent même plus ça. Ils utilisent Snapchat.
Ouais.
Ça continue. Instagram, ils ne l'utilisent pas pour poster du contenu. Ils l'utilisent en plus de manière privée avec un compte perso et un compte public et un compte privé juste pour ses amis en privé. Et toutes les études qu'on voit qu'il y a beaucoup plus, l'audience augmente, etc., sur les réseaux sociaux. En fait, je pense qu'il y a toujours ce décalage entre le moment où l'étude a été faite et où elle se propage un peu partout et que les mêmes études sont faites pour faire. Maintenant, il n'y a pas une étude, il y en a 40 000. Et la réalité, elle avance de plus en plus vite.
Les études, de toute façon, sont toujours en retard par rapport à la réalité, je pense.
Mon boulot, c'est d'être vraiment au jour. Alors du coup, c'est vachement dur pour les marques de s'adapter parce qu'une campagne, ça ne se fait pas la veille pour le lendemain, tu vois. Et sachant que ça bouge beaucoup. Et moi, qui ai cette compétence de pouvoir m'adapter très vite, faire le puzzle, etc., je l'ai vite remarqué avec les jeunes générations, elles lèvent la tête de leur écran. tu vois, et elles se sentent beaucoup plus polluées par ça. Les reportages sur zone interdite, on voit les enfants sur leur en vrai ça, il y en a de moins en moins, parce que la nouvelle génération et même ma génération à moi, on va pas les mettre autant devant l'écran.
Bien sûr. Bah, je pense qu'il y a une presque une crainte maintenant, et puis un peu un ras-le-bol. Enfin, moi, j'en parlais avec, je sais pas si tu as écouté cette interview avec Lucille Woodward, la sportive, qui me disait que elle, par exemple, elle fait du digital detox. Donc pendant une semaine ou deux semaines, elle bannit entièrement tout ce qui est digital, téléphone, ordinateur, etc. Beaucoup de gens se mettent à la méditation. Alors paradoxalement, très souvent, c'est via une application sur son téléphone. Mais néanmoins, enfin, tu vois, il y a quand même, je pense aussi, une envie effectivement de se déconnecter. Je pense.
Moi, je le dis, si je pouvais ne pas avoir de téléphone, je n'aurais pas. Par étapes, si je pouvais ne pas avoir de réseaux sociaux, j'en aurais pas. Je m'en sers pour de la veille. Je ne scrolle plus. Et pourtant, c'est mon métier. Donc, en fait, je devrais le faire par acquis de conscience et par utilité professionnelle. J'ai tout un panel de jeunes de plusieurs milieux sociaux. Il y a toujours, hein, ça n'a pas bougé. Il y a toujours les bandes, les skateurs, les machins, les trucs. Il y a toujours ça. Ça, c'est d'autres noms. Mais... Donc, j'ai plusieurs relations personnelles et amicales avec des gens de plein d'âges différents. Donc, j'échange beaucoup, mais pour j'échange pas avec ça.
Ouais, pas avec ton téléphone.
Je les vois, en fait. Ouais. Et en fait, c'est plus naturel pour eux. Donc, c'est marrant parce que du coup, ça retombe plus à notre génération, à nous, de quand on était adolescent. Mm-hmm. Quand on était adolescent, on n'avait pas...
On n'avait pas de téléphone.
Ils se donnent rendez-vous pour se voir. Tu vois. Après, il y a toujours ce truc qui est les jeux vidéo et qui passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo, et ça, c'est que online. Donc, il y a un retour à ça, et la détox que tu dis, c'est très intéressant. Bah, tu le vois, tu as fait la mise à jour là, t'as de ton iPhone.
Non.
Bah, tu as ce nouveau truc pour voir le temps des applis.
Et je pense que pour le coup, les marques comme Apple s'en rendent bien conscience et se rendent compte en fait, qu'ils sont obligés eux-mêmes d'aller dans ce sens-là et que c'est devenu presque malsain, en fait, tellement les gens sont
addicts.
J'en parlais aussi avec Augustin Pelluel-Marmont de Michel Augustin qui me disait « Je suis complètement addict à mon téléphone. » Lui, du coup, par exemple, il le met plus près de son lit le soir, il le laisse dès qu'il arrive chez lui en bas pour passer du temps avec sa famille. Moi, j'avoue, j'en parle souvent avec mon mari, il faut que je fasse attention à ça.
Ah oui, tu mets le...
Alors, je l'ai fait, je vais être tout à fait honnête avec toi.
Toi, t'es hyper disponible.
Je suis assez disponible et je pense que je vais me remettre à le couper vraiment le soir et quand je suis chez moi, parce que je sens que c'est pas très sain et donc j'ai envie d'arrêter, ouais.
Et est-ce que il est ton téléphone en vibreur silencieux ou sonnerie?
Je le mets la nuit, je le mets toujours en avion, en mode avion.
Oui, ouais. Bon, la nuit, mais la journée et tout, toi, t'as la sonnerie?
Non, silencieux.
Ok. Mais parce que t'as évolué depuis toujours ton téléphone en silencieux?
Ouais, il a toujours été silencieux.
Ok, moi aussi, du coup. Donc moi, je suis toujours en silencieux. Donc, ok, donc déjà, t'as cette étape-là. Donc non, je pense que c'est très important. Mais ça, c'est notre génération. Donc imagine la génération d'avant. Qui arrive, qui est beaucoup plus avancé que nous sur ces choses-là, pour eux, c'est par contre, ils ont le mobile.
Ah ouais.
Mais c'est tellement ancré dans leur peau, tu vois.
C'est une extension de la main.
Oui, non, mais c'est banal. Donc, du coup, ils sont pas toujours. Dans... Ouais. Après, on en voit quand t'en vois, tu les vois toujours dessus. Mais je pense qu'il y a une évolution sur ça. Donc, s'il faut se concentrer pour les grands IRCOM et pour les grands comptes, faut calmez-vous sur le création de contenu, 10 contenus par jour. De toute façon, personne ne les voit. Il y en a toutes les marques font 10 contenus par jour. Les marques, en plus, les gens ne s'y intéressent moins que les influenceurs ou que les personnes.
Ouais.
Et les personnes font aussi 10 contenus par jour.
Ouais.
De toute façon, ils ont, même si vous essayez de gratter
des contenus plus longs, mais de qualité.
Ils n'ont pas le temps. Bah, Netflix, 7 millions d'abonnés au dernier trimestre.
Les documentaires, Netflix, ils sont très regardés, alors que c'est des documentaires, quand ils pensent.
Qui regardait des documentaires
C'est clair.
Donc voilà. Et pour les plus jeunes entrepreneurs, du coup, aussi bonne idée le slow content, parce que du coup, après que tu le fasses en... ce qui est génial avec le slow content, tu fais un long format.
Tu peux le découper, bien sûr.
Tu vois, pour avoir plein de contenu. Et ça... Donc en plus, si t'es un peu encore frileux, tu peux faire ce truc-là, tu fais une fois un long format et tu peux en découper tellement de petits bouts que ça peut te tenir bon mois de contenu, si tu postes pas 10 fois par jour, bien sûr. Mais donc, toi, tu le fais quand tu fais avec Gémio les nouveaux podcasts et que tu les fais sous forme de vidéos.
La story, etc. Ouais.
C'est du découpage, en fait.
On est obligé.
Tu tiens sur un... Donc voilà, ça, c'est le truc que je peux conseiller pour les entrepreneurs qui ont besoin de faire leur com. Et de ne pas avoir peur aussi. Je sais pas, toi, ça doit être vachement dur de le faire en interne.
De produire
les contenus en interne. Mais c'est question de moyens.
On a une équipe en interne maintenant pour faire ça, parce qu'on s'est rendu compte que c'est très clé et que finalement, ça coûte entre guillemets moins cher de le faire en interne. Et puis, on a vraiment notre vision. On sait que c'est pérenne.
Pas besoin de faire comprendre un brief.
Exactement.
Et d'être sûr que le brief soit bien compris.
Exactement. Exactement. Génial. Avant que je passe aux dernières questions que j'aime bien poser, tu sais, qui sont un peu des questions rapides, je voulais te poser une question à propos de ton système de mentoring que tu as créé, qui s'appelle Miaou Consulting. Ouais.
Qui est mon futur fonds d'investissement.
Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le mentoring, qui me demandent comment faire pour avoir un mentor, à quel rythme on le voit, comment le sélectionner, comment les approcher, enfin, énormément de choses. Déjà, ma première question, c'est est-ce que tu as eu un ou des mentors ? Et ensuite, est-ce que tu peux donner quelques conseils comme ça pour des personnes qui cherchent des mentors ? Comment les sélectionner ? Comment savoir en fait quel type de personnes il faut avoir ? Et comment les approcher aussi ?
Alors non, j'ai jamais eu de mentor. Quand on s'est vu la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, on s'est vu pendant le début de l'été ou un truc comme ça. J'avais mis en place cette chose-là qui continue d'être effective. J'ai aidé quelques personnes, etc. Ça s'est bien passé.
Donc en gros, tu es mentor, juste pour expliquer en deux mots, tu es mentor.
J'accepte. J'ai suivi tes conseils. Je ne sais pas je fais peut-être ma très mauvaise publicité de dire ça. Si c'est quelque chose où il faut se faire rémunérer ou pas, parce que j'aide tellement de personnes, de gens. Toi, tu m'appelles, tu me demandes un conseil, je te le donne, je t'envoie pas une facture l'heure d'après, tu vois. Donc, je pense que peut-être que. Voilà, donc du coup je suis plus adopté la mentalité que tu m'as conseillé.
Très bien.
Donc, tous les gens qui me demandent des conseils, c'est du réseau en fait. Ouais. C'est du réseau. J'ai pas de mentor en particulier, mais peut-être que tout le monde est mon mentor du coup.
Je comprends.
Tu vois, c'est les gens que je rencontre, c'est rencontrer beaucoup de gens en fait. Faut pas forcément se chercher un mentor. Après, il faut le temps, hein, parce que moi, j'ai la chance d'avoir des sociétés qui, niveau opérationnel, j'ai des gens qui travaillent. Donc, quand tu démarres une activité, c'est difficile parce que tu es au four et au moulin. Mais rencontrer des gens vous suffit à vous inspirer.
C'est toi qui les démarches en général, des personnes qui t'inspirent et tu les démarches, ou comment ça se passe ?
Alors, est-ce que je les démarche ? En fait, peut-être qu'inconsciemment, je les démarche. Puisque de manière naturelle, j'ai pas l'impression de les démarcher parce que comme c'est quelque chose, le pulse est quelque chose de très aisé pour moi de manière naturelle. Bah bizarrement, j'ai envie de parler à cette personne. Mm-hmm. Tu vois, mais en fait, si je creuse et que je prenais du recul sur moi-même, soyons honnêtes, c'est je pense que c'est parce que j'ai un intérêt à parler à cette personne qu'elle peut m'apporter quelque chose et que je peux lui apporter. L'important. Si, sauf si vous en avez vraiment rien à foutre et que vous n'êtes pas là pour équilibrer votre karma, mais l'important c'est qu'il y a toujours un équilibre, tu vois.
Oui, que ce soit un échange réellement.
Moi j'avais très envie de te rencontrer la première fois, mais dans ma tête, fallait que ça t'apporte quelque chose. Il faut qu'il y ait un échange et qu'il soit au maximum équilibré.
Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais dit moi aussi quand j'avais fait un épisode là-dessus, c'est que en fait on voit souvent le mentor comme quelqu'un qui donne de façon assez unilatérale, et en fait pour que ça marche dans la durée, faut se rendre compte que cette personne, elle prend du plaisir aussi à mentorer, elle doit apprendre aussi des choses, et que finalement c'est une relation qui doit être assez équilibrée. Si c'est vraiment uniquement quelqu'un qui va te donner, au bout d'un moment, elle a autre chose à faire, elle se lasse, enfin tu vois, ou autrement,
c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de mentors qui se font, il y a des mentors qui se font rémunérer aussi.
Oui, bien sûr.
Du coup, peut-être pour faire l'équilibre. Mais et du coup, est-ce que c'est vraiment un mentor quand c'est une relation équilibrée ?
Elle est peut-être pas équilibrée, mais disons que il faut, comme tu dis, il faut pas que ça soit vraiment 100% unilatéral. Tu peux apporter d'autres choses à cette personne parce que ça la rajeunit, parce que, enfin tu vois.
Mais est-ce que du coup, mieux que le mentor, il n'y a pas tout simplement, alors pro, hein, se faire des amis. Tu vois, bah non, vrai. Mais tu vois, en restant dans le milieu professionnel, hein, je ne parle pas du perso, hein, puisqu'on a accès là-dessus, à moi, d'avoir des bonnes relations avec toi, fait que y a un échange et que je t'apporte des trucs et que tu m'apportes des choses. Et pourtant, il n'y a pas de, y a oui, oui. aucun mentorat.
Non, c'est sûr.
Donc, du coup, est-ce que... au lieu de trouver... Mais toi, t'es vachement dans le truc de mentor, donc je
non,
sais
non,
pas...
Non, non, je suis pas ça.
Je suis pas ça, t'as réussi.
Moi, je suis pas... Enfin, tu vois, je considère en effet pas que j'ai particulièrement de mentor, mais je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question et qui sont dans une phase où je pense qu'ils ont besoin d'être guidés, réellement. Donc, d'avoir moins un échange purement équilibré comme le nôtre, par exemple, mais d'avoir vraiment une personne qui vont pouvoir presque appeler en hotline, tu vois, qui vont...
De quelqu'un qui va les aider... Ouais. À accomplir un objectif oui, ou à trouver leur objectif.
Peu importe, mais oui, complètement.
C'est ça, c'est pas forcément pour les entrepreneurs, c'est vrai.
Non, pas du tout, ça peut être des mentors de vie, même personnels.
Oui, donc bon, moi je cible plus les entrepreneurs, hein, parce que les mentors de vie, je suis pas coach, je serais pas très très bon coach, je pense. J'ai un peu du mal en plus avec ce truc de coach. j'ai tout de suite l'image vraiment du truc, vous voulez gagner 10 000 euros ?
Ouais, c'est vrai que c'est malheureusement souvent un peu le cas.
Donc, t'as raison. Sur ça, je pense que pour t'aider à trouver ton objectif et à te donner les clés adaptées, et du coup, te trouver les clés adaptées pour y arriver, je pense que ça peut être très utile, un mentor. Par contre, je pense que les gens doivent être... Putain, je ne fais pas du tout ma pub, hein, parce que...
Mais non, mais bon, ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi être ouvert à juste avoir des relations d'amitié où tu t'en tires des enseignements.
Oui,
quoi.
Après, mais je conçois, t'as raison, il y a peut-être des gens qui ne sont pas à cette étape-là et qui ont d'abord besoin de... C'est facile pour moi de dire ça, je connais mon objectif. Tu vois, donc, le faire, maintenant, c'est de manière naturelle, mais même si je l'avais découvert hier, ça ne me demanderait plus juste de travail, mais créer...
Ouais, exactement.
Tous les petits chemins pour augmenter mes probabilités de chance d'accomplir mon objectif, c'est plutôt simple. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas trouvé leur objectif, bah en fait, ils vont se dire, bah oui, mais je vais me faire des amis, échanger, mais échanger sur quoi ? Tu vois. Donc, t'as raison. Faut du mentor.
Ça marche.
Faut un mentor. Mais en tout cas, ça, c'est vrai que ça fonctionne. Moi, depuis, je l'ai lancé cet été. J'ai aidé plein de personnes sur plein de sujets différents. Et
tu vois des résultats, quoi.
Oui, je vois des résultats. Et en fait, ça dure sur le temps.
Génial. Bon, bah écoute, merci donc, pour cette petite réponse mentor. Du coup, pour terminer, j'aime bien, comme tu sais, donc... brasser un peu large sur plein de questions un peu plus personnelles aussi. Et donc ma première question, celle que j'aime beaucoup poser, c'est est-ce que tu peux me décrire assez en détail ce que c'est que la journée type Charles Perron ? Puisque en plus, avec ton côté créatif et tes multitudes de boîtes, j'imagine que ça doit être assez, assez varié. Donc peut-être pas une journée type, mais bon, voilà, à quoi ça ressemble.
Parce que du coup, j'ai un profil créatif et donc du coup, j'ai pas vraiment d'organisation type. Je suis pas le modèle entrepreneur de la journée optimisée,
oui,
cadrée,
tu sais,
etc. Donc, en fait, c'est, je suis pas le modèle pour faire du calque et de, je peux promulguer des conseils.
Non, mais c'est ça qui est intéressant.
Voilà. Mais tu vois, c'est, sauf pour les gens qui ont ma personnalité, mais en fait, les gens qui rentrent dans ma personnalité, ils ont pas besoin de gens comme moi. Enfin, ils ont pas besoin de conseils, en général, ou du moins pas ce genre de conseils. Ma journée, maintenant, et mon souhait de journée plutôt, c'est faire de moins en moins d'opérationnel et de faire vraiment, je le redis, rencontrer des gens en fait.
Donc en fait,
passer
concrètement, toi tu te lèves le matin, tu...
Je parle.
J'habite à Berlin en plus.
Oui, j'habite à Berlin.
Marty est situé à Berlin, donc tu te lèves assez tôt le matin ou pas tellement?
Bah, je me fais réveiller par ma femme, donc de toute façon, puis tu sais, après un certain, tu sais très bien, après un certain âge, on se réveille. Tu vois, ça fait combien de temps que tu t'es pas réveillé à 13h?
Ah, ça très longtemps, ouais, c'est vrai.
Non, mais même si on sort et tout, même si on rentre hyper tard, on se réveille pas à 13h. Donc, de toute façon, je me lève. Par contre, je me lève pas à 6h du matin. Toi, je te vois le matin quand je me réveille que, j'ouvre mon Instagram, que je vois, en plus, l'algorithme, je ne sais pas pourquoi, t'es toujours la première personne.
Je suis ravie.
Mais c'est normal, je pense que t'es dans mes contacts, c'est la première personne qui passe le matin, et que je vois à 7h du matin que t'es en train de courir. J'ai attends, vachement, vachement courageux cette fille.
Donc tu ne te lèves pas tôt, mais.
Non, je me lève pas tôt, mais je suis Je suis devant. Alors, je travaille depuis chez moi beaucoup.
Ouais.
Quand je rejoins les autres pour travailler, c'est plus vers le midi.
Ouais.
Pour déjeuner avec eux et enchaîner une après-midi de travail. Le matin, je travaille beaucoup chez moi. Je me lève à 9h. En fait, je me lève, je travaille tout de suite.
Ouais.
Tu vois, j'ai pas de morning routine, du petit-déj, de machin. Je me douche le soir en plus, ou je me retouche la journée, tu vois. Donc, en fait, j'enchaîne assez rapidement et j'ai appris un truc qui a changé dans ma vie, qui était qu'avant, je faisais, tu sais, je dormais, je me couchais à 5h du mat, etc. Et je vivais en décalé. Et j'avais cette excuse que beaucoup de gens ont de « Ah, mais si, on travaille mieux la nuit et tout ça. »
Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu un mythe, mais je voulais te poser la question justement sur le sommeil, on va en parler juste
après. Ouais, bah, je pense qu'il y a un mythe, parce que du coup, depuis que tout le monde. Du coup, beaucoup de gens disent ça, mais t'as l'école qui brille le plus et l'école la plus sérieuse te dit que c'est le matin que t'es le plus efficace.
Mm-hmm.
Et donc, je me suis forcé à le faire le matin, mais en fait, je me suis pas forcé vraiment, parce qu'avec l'âge et ton rythme de vie, ça fait que le matin existe plus.
Mm-hmm.
Et en le faisant le matin. C'est vrai que le matin, c'est le moment où je suis le plus concentré. Et c'est le matin où je produis le plus de choses. Je suis le plus en alerte sur la veille. Donc, je ne suis pas l'exemple, je l'ai dit au début, mais je fonce sur mon ordi. Que personne ne me parle. J'utilise, comme j'ai des soucis de concentration, j'utilise le peu de concentration que j'ai pour l'exploiter très, très vite, tout de suite, dès le réveil. Et après, vers le midi, faut vite que je commence des rendez-vous parce que sinon c'est pas à peine. Donc j'ai pas de, je fais pas. Mais tu vas pas me le poser la question. Je ne fais pas sport.
Non.
Tu vois.
Je ne te la poserai pas. Du coup.
Je ne dis pas qu'il faut pas en faire. Je pense que c'est très bon pour le mental. Peut-être qu'un jour ça me viendra et que je découvrirai que j'ai encore augmenté mes capacités parce qu'on fait que évoluer et que j'ai pas la science infuse. Mais j'en fais pas et c'est ça. Je me lève. Je fonce direct travailler. Mes journées type, c'est beaucoup de veille et beaucoup de
rendez-vous,
d'échanges avec des gens, que ce soit de l'interne, donc des réunions, même si je suis no adepte, j'aime pas, je contre les réunions, mais c'est un truc très de notre génération entrepreneuriale. Ou alors, c'est des réunions en très petits comités qui sont pas pour résoudre ou organiser du travail, mais pour faire des échanges humains, tu vois. Donc, s'il faut que je passe une heure en réunion pour entendre quelqu'un qui bosse avec moi se plaindre comme quoi pendant une heure c'est horrible de bosser avec tel client, mais non, mais je le fais.
D'accord.
Parce que c'est qu'elle a besoin. Donc, c'est la petite partie, c'est le petit moment psy. Donc, je fais ça. Donc, j'échange beaucoup avec les gens, mais du coup, ça m'épuise beaucoup. Ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et il faut avouer que. Alors, je ne sais pas si c'est surhumain déjà, mais. Je peux pas enchaîner. J'enchaîne 3-4 rendez-vous et c'est fini.
Ouais.
Après, je peux plus rien faire. C'est pas possible. Quand je reviens en fin d'après-midi au bureau pour me remettre, ou du moins pour me remettre devant mon ordinateur, je suis plus capable de produire. Ouais. Donc de toute D'accord. façon, donc comme j'ai encore du temps parce que j'ai pas encore d'enfants, je cherche d'autres occupations de travail. Mais je suis plus effectif. Toi, t'arrives à être effectif à partir d'une certaine heure le soir encore
hein? Ça peut. Bah, notamment, moi, j'ai une contrainte un peu comme toi qui est les réunions d'équipe ou les réunions avec les personnes avec lesquelles je travaille directement. Et c'est vrai que du coup, ça crée de la valeur, mais t'es interrompu dans le deep work. Et le soir, en revanche, quand il y a moins de monde au bureau, ça me permet de me remettre sur des sujets de fond. Donc ça peut m'arriver, ouais. Je te dis pas que c'est pas tous les jours.
Est-ce que t'as entre. Juste avant, t'as un petit break ou t'as un truc où il faut que tu vois, est-ce que t'arrives du coup bien enchaîné, t'as fait échanger beaucoup avec les gens, donc après je sais pas de la manière dont tu fais tes réunions, mais moi les gens absorbent beaucoup mon énergie puisque je suis vraiment la roue le maillon de la réunion, et puis ou alors que je suis souvent c'est moi qui encaisse tout donc et donc en sortant de là. Toi, tu me dis qu'en sortant de réunion, t'arrives, c'est le moment où t'arrives.
Il y a peut-être un petit moment de battement, tu vois. Il y a certainement un moment de battement où je suis moins productive. Souvent, j'ai des petits rituels d'écouter de la musique, par exemple. Je mets mes écouteurs, enfin, des choses assez basiques. Par exemple, moi, j'aime bien écouter de la musique en boucle aussi. Comme ça, je suis même pas dérangée, on va dire, par le changement, tu vois, de la musique. Donc,
Moi aussi, j'écoute la même musique en boucle pendant.
Enfin, je me dis, mais je suis un peu débile. Et
heureusement que. et si c'était dans des enceintes, je pense qu'on me prendrait vraiment pour un taré.
Au niveau du son.
Oui. Ouais. Pourquoi, bah, voilà. Mais pourquoi ça fait 10 fois qu'on entend la même musique?
C'est ça. Bah, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai certainement besoin, tu vois, de me replonger dans un état, on va dire, de concentration versus un état d'énergie quand je suis avec d'autres personnes. Mais c'est pas du tout la même chose, effectivement, au niveau même physiologique. Mais oui, je peux y arriver. Après, il y a juste un moment de battement, tu vois, je switche pas de l'un à l'autre en 2 secondes, quoi.
Mais du coup, je pense que le sport t'aide peut-être bien pour ça aussi, pour le corps, en fait. C'est une question de corps.
Je pense, ouais.
Donc moi, ce mental du sport, je l'ai parce que de la danse.
Bah, bien sûr, ouais.
Tu vois, donc j'ai gardé le mental. J'ai pas gardé le physique, j'ai gardé le mental.
Ça marche. Et du coup, ma dernière question, tu la connais, je pense, c'est le livre ou les livres qui t'ont particulièrement marqué. Ça peut être des films aussi, oui. J'élargis à la rigueur si tu veux. Mais ouais, des choses qui t'ont marqué, qui ont, je dirais, pas changé ta vie nécessairement, mais vraiment des livres où tu sens que ça t'en a tiré des enseignements forts. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander?
Alors, moi, je ne lis pas. J'ai beaucoup lu adolescent dans ma période ado insupportable où je lis tous les livres avant le programme de l'école, des autres années, etc. Donc, j'ai eu ma période intellectuelle, trop plein de culture, etc. Je l'ai eu adolescent, donc j'ai lu beaucoup, mais je ne lis plus depuis mon passage à la vie entrepreneuriale. Je ne me nourris pas de ce type de contenu. Je me nourris beaucoup de contenu vidéoludique.
D'accord.
Je regardais un peu moins maintenant, mais toutes les séries, tous les films, même les films que je ne veux pas voir, même les séries que je ne veux pas voir, parce que j'absorbe les choses à une très très grande vitesse. Le problème du livre, moi, c'est que je lis 2 lignes, je m'endors. Donc j'ai dû beaucoup de mal à lire un livre. J'ai essayé sur le Kindle, ils font le truc pour que donc il faudrait que je le regarde sur mon téléphone avec la lumière bleue, peut-être ça passe, ça m'empêche de dormir, mais ça m'endort. Donc je ne lis pas, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Donc c'est un très bon enseignement de vie, ça débloque beaucoup les capacités, mais du coup je ne me nourris pas trop de conseils extérieurs, donc les livres d'entrepreneurs, etc.
C'était pas forcément entrepreneurial, hein.
Ça peut être des romans, des films, etc. Bah, donc je regarde exactement toutes les séries, toute la bibliothèque Netflix. Je ne sais pas où je trouve le temps de faire tout ça.
Alors, est-ce que tu aurais soit une série à nous conseiller, soit un documentaire qui t'a particulièrement marqué sur Netflix?
C'est pas ça me met pas du tout en valeur, mais Better Call Saul, il paraît que je suis très... T'as regardé Breaking Bad?
Non,
tu regardes pas beaucoup de séries, toi.
J'avoue, j'ai pas le temps.
Mais bon, tu lis.
Je lis, ouais, je lis pas mal et j'écoute des podcasts. Mais du coup, Better Call Saul.
Better Call Saul, où il y a un avocat un peu indépendant qui s'est fait un peu tout seul, qui était un peu escroc sur les bords et qui est trop gentil, très humain. On m'identifie beaucoup à ce personnage. C'est pas du tout peut-être valorisant pour moi, sauf pour ceux qui connaissent très bien la série.
D'accord.
Mais ouais, voilà, les séries, je me nourris beaucoup de séries, je me nourris beaucoup de jeux vidéo.
Comme jeux vidéo, par exemple?
Je joue beaucoup. J'ai été joueur pro World of Warcraft, j'ai beaucoup joué à World of Warcraft. Je suis beaucoup les tendances, mais les tendances de core gaming, donc les jeux qui aiment vraiment les gamers profonds. Donc, je ne joue pas à Fortnite, mais j'y ai joué avant que vous y jouiez sûrement. Mais sinon, du coup, j'avance dans les podcasts.
Ben voilà.
Puisque je n'en écoutais pas avant que Christa, ma planostratégique, me fasse découvrir ton podcast un peu avant l'été.
Ouais.
Comme tu ne sors pas un podcast par heure,
non.
Il faut bien écouter quelque chose en travaillant et tout. Moi, je mets moins de musique, ou alors c'est ça, je mets Angèle en boucle, la même chanson d'Angèle qui tourne. La même chanson de son frère, Roméo Elvis. Voilà. Donc, les podcasts, j'ai beaucoup avancé, j'en écoute de plus en plus.
Quelques dernières recos de podcasts.
Alors, du coup, je suis pas original parce que vous devez tout comme écoutent des podcasts sont des gens qui écoutent des podcasts. Je vais pas vous faire découvrir sûrement des pépites parce que moi, en plus. En podcast entrepreneur, j'écoute que le tien. D'accord. En podcast business.
Bah écoute, je suis flattée. Mais bon, sans entrer dans le détail des miens, du coup, lesquels autres t'écoutes sur un
transfert,
autre secteur?
Transfert, d'accord. Le super podcast dont je me souviens plus le nom, où il y avait cette petite fille de 6e.
Ah oui, entre. Pas,
c'était par la même fille qui fait transfert, je crois. Et alors ça, extraordinaire, mais bon, moi, c'est peut-être parce que je suis touché par les podcasts, enfin, cette audience, mm-hmm. cette audience m'intéresse. Donc ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc tu as du coup plus des podcasts sociaux.
Ouais. Ouais, je comprends.
Je sais,
mais c'est intéressant aussi.
Mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on aime... est-ce que c'est ce côté télé-réalité ou machin que... je ne sais pas, mais du coup, ou alors c'est ça, c'est l'histoire des gens. Les histoires des gens, c'est fascinant.
Ça marche. Bah, écoute, merci Charles infiniment.
Merci Pauline.
Pour terminer, en fait, la dernière petite chose que j'aime bien demander, c'est où est-ce qu'on peut te trouver sur le monde merveilleux du web si jamais on a besoin de te contacter. Déjà sur le site de Marty Agency, bien sûr.
Ouais, et où il n'y a pas beaucoup d'infos. Hein. Donc en vrai, si vraiment on veut voir, il ne faut pas hésiter, même si ça n'a rien à voir avec le boulot, même si ce n'est pas pour bosser avec moi, si on veut voir un peu ce que fait Marty, etc. Pas hésiter à me contacter directement. D'accord. Parce que sur le site, il y a juste marqué acquisition d'audience génération Y et Z.
D'accord.
Et sur LinkedIn, pour le pro.
Donc Charles Perron.
Oui. Moi, perso, si les gens se mettent à m'ajouter sur Facebook, je m'en fous, mais je crois que je suis full en ami. Donc,
d'accord.
Mais moi, je n'utilise pas Facebook comme truc perso. Si je pouvais le supprimer. Toi, je ne sais pas comment tu fais.
Je ne réponds
t'en
à rien.
Pas. Non, mais tu t'en sers de ton Facebook ?
Absolument pas. J'y vais jamais. J'y vais honnêtement. Je
et de Messenger ?
Non. Enfin, d'ailleurs, les gens me laissent des messages que je ne lis pas. Donc, non, messieurs, dames, ne laissez pas de messages sur Facebook. Ça ne sert à rien.
Non, mais le pro, du coup. Mais est-ce que toi, tu t'en sers pour le perso ?
Ah non, pas du tout. Vraiment
ah, c'est pas.
Pas
ton médium pour le perso ?
Non, pas okay. du tout.
Donc, c'est ça, je te laisserai tout, mon mail, etc. Le LinkedIn, le Twitter, sur les réseaux sociaux un peu plus publics, j'ai mon pseudonyme de joueur qui est Miaou TV. Voilà, mais sur Twitter c'est Miaou TV, sur Instagram c'est Miaou TV. Je suis très réactif, je répondrai à tout le monde sans souci et je mets pas de filtre entre moi pour. Répondre, tu vois.
Ça marche. Bon, en tout cas, je mettrai tout ça dans les notes du podcast, évidemment. Donc, messieurs, dames, si vous souhaitez parler à Charles, ça sera noté sur les notes du podcast. Ben, merci beaucoup pour tout ce temps.
Merci, Pauline.
Je te dis à bientôt. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.